Ici l'Europe, Dominique Bayard, Caroline de Camaret.
Bienvenue sur France 24 et RFI pour Ici l'Europe. Alors que le débat européen se polarise autour de la question migratoire et alors que l'Italie a d'ailleurs refusé d'accueillir sur son sol plusieurs bateaux d'affilée, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui un Italien, Filippo Grandi, bonjour, bonjour, haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.
Bonjour.
Vous êtes un homme de terrain, vous avez travaillé pour les Nations Unies dans de nombreux pays concernés au premier chef par la question migratoire, que ce soit au Moyen-Orient, en Asie ou en Afrique. Vous avez également dirigé l'UNRWA, l'agence onusienne chargée des réfugiés palestiniens. Et vous avez donc pris la tête du HCR le 1er janvier 2016, au moment où le sort des migrants a commencé à faire polémique en Europe après l'arrivée de 1 million de migrants en 2015.
Et la polémique continue d'ailleurs. L'Autriche a pris la présidence tournante de l'Union européenne pour 6 mois. Depuis le 1er juillet et souhaiterait qu'il ne soit plus possible dans l'avenir de déposer une demande d'asile sur le sol européen. Ça vous paraît conforme aux conventions internationales ?
Évidemment non. Donc il faut sauvegarder cette possibilité pour les gens qui en ont besoin de poser leur demande d'asile sur le sol de l'Union européenne. Et je pense que à ce sujet, nous avons quand même l'appui d'un certain nombre d'États membres de l'Union européenne, y compris la France. Cela ne veut pas dire que le phénomène migratoire, comme vous l'avez défini, qui inclut des réfugiés et des gens qui bougent pour des raisons économiques, ne doivent pas être gérés de manière plus efficace, plus rapide, plus organisée. Ça, c'est clairement une nécessité de l'Europe. Mais de là à dire qu'il faut nier la possibilité de poser des demandes d'asile, je pense que le pas est trop long.
Alors, ce sont les populistes arrivés en Italie, mais aussi qui participent au gouvernement en Autriche, les populistes en Europe de l'Est, qui ont contraint un peu les Européens à se replonger dans ce dossier migratoire et à trouver de nouvelles solutions. Et lors du dernier sommet, eh bien, l'Europe des 28 a failli exploser sur la question. Finalement, ils ont trouvé un accord de principe sur des projets assez vagues. On parle notamment de centres fermés, contrôlés sur le sol européen pour trier les arrivants. Est-ce que ça peut être une des solutions ou est-ce qu'il faut d'abord tout changer dans la politique migratoire ?
Je pense que pour ce qui est du débarquement des gens qui arrivent par bateau à travers la Méditerranée, surtout c'est le flux le plus important. Et permettez-moi de le dire, c'est un flux qui était très important en 2015, 2016, comme vous l'avez évoqué. C'est un flux qui est plus que gérable. On a 40 000 personnes qui ont traversé, 45 000 personnes qui ont traversé, c'est 6 fois moins qu'en 2017. Et c'est je ne sais pas combien de fois moins qu'en 2016. Donc c'est le moment en fait de regarder comment on organise cet accueil. Je pense que comme les flux ne sont pas aussi importants qu'on les veut, qu'on les dit, et c'est le moment est venu d'organiser. Donc, dans ce sens-là, je pense que cette attention aux flux...
Centre fermé, quand même, sur le sol européen.
Cette attention est importante. Alors, je pense qu'il est aussi question d'organiser l'accueil à travers des centres. Alors, vous savez, notre position est très claire. Il faut pas mettre en prison des demandeurs d'asile. Demander l'asile n'est pas un crime. Mais c'est vrai que dans notre position juridique, si vous voulez, on dit, bien sûr, les États ont le droit de faire un tri, de faire des vérifications de ces personnes. Pendant une période, cela peut se faire dans des centres où il y a un certain contrôle, mais ça doit pas être prolongé et surtout, ça ne doit pas toucher les demandeurs d'asile.
C'est la grande idée d'Emmanuel Macron, en fait, qui veut néanmoins qu'il ne veut pas de centre sur le sol français de ce type. Alors, en gros, on est d'accord sur la base du volontariat et puis personne ne signe pour ces centres. C'est un peu paradoxal, non ?
Oui, ça a été le problème de l'Europe depuis le début de cette... moi, je n'aime pas l'appeler une crise, depuis le début de ce phénomène d'arrivée massive. C'est que ce phénomène ne peut que être géré que de façon solidaire, de façon partagée. Ça ne peut pas être un État ou l'autre. Nous l'avons vu avec l'Allemagne en 2015, nous l'avons vu avec la Grèce en 2016, avec l'Italie en 2017. Donc, qui sera le prochain ? il ne peut que être partagé. Donc, la décision de comment le partager et qui partage n'est pas une décision des Nations Unies, c'est une décision des États, mais il faut que ça soit fait de cette manière.
Alors, justement, on a aujourd'hui des États qui ne veulent plus rien partager, notamment le ministre allemand de l'Intérieur, Horst Seehofer, qui veut renvoyer les migrants vers les pays où ils sont entrés. Ça fait partie des choses qui ont été abordées lors de ce sommet, c'est-à-dire qu'il demande une application stricte de ce qu'on appelle le règlement de Dublin. En fait, on s'aperçoit que c'est un véritable casse-tête. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est la solution?
Le règlement de Dublin avait été établi, avait été dessiné dans un moment historique complètement différent. Il y avait très peu de gens qui arrivaient en Europe de la manière dont ils arrivent maintenant. Et donc, c'était plutôt justifié de dire, pour qu'ils ne se, ils n'aillent pas choisir trop facilement le pays où ils vont aller, ils doivent demander l'asile là où ils arrivent. Ça, c'était le principe de Dublin. C'est un principe qui n'est plus gérable dans une situation d'arrivée massive. Donc, il faut le réformer. Et ça appartient à un autre processus qui est la réforme du droit d'asile en Europe. Un processus qu'on a un petit peu oublié, mais qui est très urgent et sur lequel on n'a pas fait beaucoup d'avancées.
Et d'autant que l'Italie, en l'occurrence votre pays, l'Autriche est complètement contre l'idée de à nouveau se voir rabattre les gens et s'en tenir à ce règlement de Dublin, qui est absurde.
Bien sûr, l'Italie, la Grèce, peut-être dans un futur, l'Espagne, pas encore, sont les pays qui sont un peu sur la ligne de front. C'est là où les gens arrivent. Et donc, ils sont particulièrement pénalisés par cette approche de Dublin. Et je pense que je ne suis pas d'accord avec la clôture des ports, avec tout ce que on a dit plus que fait, mais je pense que c'est justifié de dire de la part des pays qui ont le plus d'arrivées, il faut partager davantage.
Comment on fait pour réformer le droit d'asile européen au moment où on a un peu partout des gouvernements populistes qui ne veulent plus de migrants, tout simplement?
Bon, ça, vous savez, je pense que, permettez-moi de le dire, on n'aura plus de migrants, je ne sais pas si c'est juste ou pas juste, c'est simplement pas réaliste. Les mouvements migratoires vont continuer. Il faut les gérer mieux, ça c'est clair. Je pense qu'il faut examiner cette question d'une manière un peu plus stratégique. Tout le monde se focalise maintenant sur l'accueil, sur les arrivées. En fait, il faudrait regarder pourquoi ces gens bougent. Quelles sont les causes de ces départs? Il y a des causes politiques, militaires, ça c'est les réfugiés essentiellement. Il y a des causes économiques, sociales, climatiques, ça c'est les autres. Il y a beaucoup de gens qui bougent pour les deux raisons. Donc, l'Europe doit vraiment faire des investissements beaucoup plus importants et beaucoup plus stratégique pour essayer d'adresser les causes à la source. Alors ça va réduire évidemment les mouvements et ça va les rendre beaucoup plus gérables.
Alors, nous partons en direction de votre pays, l'Italie, avec l'arrivée au pouvoir en mars dernier d'un gouvernement 5 étoiles, la Ligue, qui a changé la donne migratoire. Plusieurs bateaux de secours en Méditerranée se sont vus refuser l'accostage sur les côtes italiennes. Certaines organisations catholiques, comme la communauté Sant'Egidio, préconisent des manières légales et humaines de traiter plusieurs demandeurs d'asile avec des passeports humanitaires. Reportage tout de suite de Nathalie. Italia Mendoza.
Arrivés à l'aéroport de Rome après une nuit de vol, leur joie est visible.
Je suis tellement heureux. Je remercie Dieu et tous ceux qui ont aidé pour nous sauver et pour qu'on puisse arriver jusqu'ici. Merci.
Pour Suleiman, comme pour les 138 autres réfugiés tout juste arrivés en Italie, c'est la fin d'un long périple. Une aventure qui a commencé il y a plusieurs mois en Afrique. Dans ce camp, au nord de l'Éthiopie, vivent des milliers de réfugiés qui ont fui la dictature en Érythrée. La plupart d'entre eux partagent un même rêve, atteindre l'Europe. Ces opérateurs humanitaires sont porteurs d'une bonne nouvelle. Ils informent cette famille que d'ici quelques semaines, elle sera accueillie en Italie.
Il faudra que vous partiez d'ici et que vous commenciez une nouvelle vie. Et vous serez accueillis par les communautés en Italie.
Daniele Albanese est un des coordinateurs du projet. Il est membre de l'une des trois ONG catholiques qui organisent ces corridors humanitaires.
Cela veut dire qu'ils ne seront seront pas victimes de trafic, ils n'entreront pas clandestinement en passant par le désert et la mer où ils risquent leur vie. Au lieu de cela, ils voyageront par avion.
Yamina est visiblement soulagée.
Je remercie l'Italie de nous accueillir. Nous sommes arrivés ici sans avoir à prendre des risques et cela nous a sauvés.
Viva l'Italia!
Ce projet de corridor humanitaire est entièrement financé par la Conférence épiscopale italienne. Son succès dépend des visas accordés par le gouvernement populiste italien.
Les couloirs humanitaires, c'est une voie légale parfaite qui réalise aussi la sécurité de qui voyage et de qui accueille, du pays et des gens qui accueillent. Et donc nous proposons à toute l'Europe d'élargir ce modèle.
Depuis l'instauration de ces couloirs humanitaires il y a 2 ans, 1600 réfugiés ont atterri en Italie.
Alors on le voit dans ce reportage, Monsieur Grandi, ça ne concerne qu'une poignée de réfugiés. Est-ce que le modèle peut être élargi? Est-ce que c'est une solution d'avenir?
Tout à fait. Ça va jamais concerner tous les réfugiés, mais ça peut certainement, par exemple, bénéficier les plus vulnérables, parce qu'on a la possibilité de choisir entre les communautés réfugiées qui se trouvent en Afrique ou au Moyen-Orient ou en Asie, les gens qui vraiment ont besoin d'une situation plus stable et les transférer. Vous savez, ça c'est pas entièrement nouveau. On fait ce programme qui s'appelle réinstallation depuis des décennies. On l'a fait beaucoup en France. N'oubliez pas les boat people, les Vietnamiens, etc. Mais ce qui est nouveau dans cette approche de Sant'Egidio, qui est excellent à mon avis, c'est que c'est la société civile qui prend l'initiative. Il faut que les gouvernements collaborent parce qu'il faut donner les visas, il faut faciliter. Mais cet appui, ce partenariat avec la société civile, comme on le fait au Canada, est extraordinaire et je l'encourage.
Alors, les gouvernants, ils n'en sont pas là du tout. Hein. Vous êtes italien, vous avez vu ces bateaux errer en Méditerranée avec le ministre de l'Intérieur, le chef de la Ligue, Matteo Salvini, qui demande à ses partenaires de ne pas diriger vers des ports italiens des navires actuellement en mission internationale. C'est une citation. Ça veut dire que la crise va continuer?
Ça veut dire que l'Italie ce gouvernement italien est dans une phase de réaction. Il dit, vous nous avez pas écoutés, on a reçu des gens pendant des années, vous n'avez pas partagé suffisamment cette responsabilité, maintenant on prend la ligne dure. Alors, moi, personnellement, je ne suis pas du tout pour la ligne dure. Surtout, les sauvetages en mer ne peuvent pas être affaiblis. Ça, c'est une obligation internationale, en fait. Mais il est vrai, je dois le dire, il est vrai qu'il faut que ce partage se passe. Il faut que ce plan de débarquement soit mis en œuvre. Et on a fait des propositions très concrètes à l'Europe.
Alors, précisément, est-ce que ces plateformes de débarquement hors de l'UE que les 28 sont en train d'imaginer, ils demandent un plan à la Commission européenne, ces centres de tri avec l'aide du HCR, de votre HCR, c'est envisageable? Il y a un modèle qu'on nous cite régulièrement au Niger, et là encore, est-ce qu'on peut l'élargir à d'autres pays de l'autre côté de la Méditerranée? On a bien compris.
Bien sûr, si ces pays sont prêts à le faire. À notre avis, un plan de débarquement ne peut que être fait si tout le monde participe, des deux côtés de la Méditerranée. Donc il faut que l'Europe donne l'exemple. Et puis, il faut discuter avec d'autres pays pour voir s'ils sont disposés à le faire. Le Niger est en train de le faire pour des gens qu'on évacue de la Libye. Ça, c'est très intéressant. Mais le pacte est que les gens qu'on évacue soient ensuite réinstallés. Cette réinstallation se fait, mais elle est trop lente. Donc, déjà, on voit que ce système ne marche pas aussi efficacement qu'on le voudrait.
Et là, ce qu'on voit pour l'instant, c'est que la plupart des pays potentiellement intéressés par ces centres, eh bien, ils ont tous refusé, que ce soit l'Albanie, que ce soit au Maghreb, la Tunisie, la Libye, l'Algérie, le Maroc. Est-ce qu'ils ont raison de refuser ces centres?
Je pense que tous les pays regardent vers l'Europe, voient un sens de non-responsabilité, de pousser la responsabilité vers des autres et ne veulent pas être laissés tout seuls avec cette responsabilité. Donc il faut que l'Europe commence à donner cet exemple de partage. Je m'excuse, mais il faut que j'insiste sur ce point.
Alors, est-ce que vous avez l'impression que finalement l'Europe peut fermer la porte aux migrants, comme le rêve un peu l'Italie, et puis maintenant de plus en plus d'autres, on peut le dire, hein?
Je ne pense pas. Premièrement, je pense que l'Europe, j'espère que l'Europe ne va jamais fermer la porte aux réfugiés, donc aux gens qui fuient les guerres, les persécutions, ça serait une trahison complète des principes fondamentaux de ce continent et de l'Union européenne. Ensuite, pour ce qui est des migrations économiques, ça c'est pas mon domaine, mais c'est clair qu'on a besoin de ça en Europe. Donc, il est question de les gérer mieux. Je pense que c'est là la direction où l'Europe doit, dans laquelle l'Europe doit bouger. Et je pense que finalement, cette approche plus rationnelle, une fois ce grand nuage politique passé, je pense que ça va prévaloir parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde.
Alors les Italiens, le gouvernement italien fait beaucoup de bruit sur la question migratoire. Il y a un autre pays qui accueille beaucoup de migrants, qu'on entend beaucoup moins, c'est la Grèce, hein, qui a accueilli deux fois plus de migrants que l'Italie depuis 2015. Les relocalisations sont en panne, les hotspots sont bondés, les juges grecs d'ailleurs refusent que certains réfugiés soient renvoyés vers la Turquie parce qu'ils estiment que leur droit ne sera pas respecté. Est-ce que il n'y a pas une nouvelle crise migratoire qui est à craindre dans ce pays?
Je pense qu'on a fait beaucoup de progrès en Grèce, mais c'est vrai que des questions restent non résolues. Vous les avez évoquées, surtout la situation sur les îles où beaucoup de ces gens sont bloqués depuis.
Ils sont bloqués, ils sont prisonniers
dans des situations, dans des conditions qui ne sont pas bonnes. Là, il faut renforcer l'État grec. Il faut aider la Grèce à mieux gérer. Les arrivées, heureusement, récemment, n'ont pas été énormes. Il y a eu des gens qui sont arrivés, mais dans des nombres très gérables. Donc c'est gérable si on n'oublie pas qu'il y a aussi ce coin d'Europe très important qui demande des ressources européennes et de l'attention politique.
Alors, on a parlé aussi des remous que cela génère en Allemagne, avec un ministre de l'Intérieur, justement, qui est en plein bras de fer avec Angela Merkel sur ces questions migratoires. Un jeune Afghan expulsé d'Allemagne s'est suicidé dans un centre où il a été accueilli à Kaboul. Certains demandent une démission de ce ministre de l'Intérieur. On voit que ça génère aussi des drames humains que cette idée de reflux, de renvoyer. Et c'est assez compliqué, finalement, à gérer aussi.
C'est compliqué. C'est clair que pour les gens qui passent à travers un processus de détermination de statut, on l'appelle comme ça techniquement, est-ce qu'ils sont des réfugiés ou pas, et qui ne sont pas reconnus comme réfugiés, il faut un système pour qu'ils puissent rentrer chez eux de manière humaine, ils ont des droits aussi, et de manière soutenue par les pays qui les renvoient et par leur pays d'origine. C'est pas facile. À mon avis, ce cas indique surtout une chose, qu'il ne faut pas oublier qu'au-delà de tous ces chiffres, de tous ces débats politiques, il s'agit de personnes, avec des drames humains derrière eux qui sont parfois terribles, qui sont aigus. Et donc, il ne faut pas oublier cette dimension humaine. Si on oublie cette dimension humaine, on ne va pas prendre des bonnes décisions par rapport à toutes ces populations en détresse.
Face à tous ces populistes européens, où est-ce que vous voyez un message d'espoir? Qu'est-ce qui vous paraît aujourd'hui positif en Europe?
Deux choses, aux extrêmes opposés peut-être. D'un côté, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est important de le répéter, il y a un intérêt à coopérer. Même les gouvernements les plus durs à ce sujet le reconnaissent. Et donc, je pense qu'on va y arriver, mais il faut insister, il faut faire des propositions concrètes. Le HCR, l'OIM, qui est l'Organisation Internationale des Migrations, on a développé beaucoup de ces propositions et on travaille avec les instances européennes. Et l'autre point d'espoir, c'est qu'il y a encore beaucoup de solidarité en Europe. Ce qu'on a vu tout à l'heure, Sant'Egidio, c'est basé sur une initiative des communautés. Ce qu'on a vu quand l'Aquarius est arrivé à Valencia, en Espagne, c'est un élan populaire pour accueillir ces gens. Donc, cette solidarité existe. Elle est aussi forte que les peurs, les craintes, les hostilités. Et cette solidarité doit être valorisée, doit être portée en avant comme un élément politique fondamental du discours migratoire européen.
Merci Philippe Ograndi d'avoir été notre invité aujourd'hui.
Merci à tous de votre fidélité. Tout de suite, votre rendez-vous avec l'actualité sur France 24 ou bien sur Radio France Internationale.